France Culture, avoir raison avec Karl Polanyi, par Aliette Ovine.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de notre série consacrée à l'économiste et historien Karl Polanyi. Dans les années 1930, Karl Polanyi assiste à l'arrivée au pouvoir d'Hitler et en subit de plein fouet les conséquences. Mais si l'événement est brutal et violent, il n'était pour autant pas imprévisible. Il constitue même la suite logique des événements en cours depuis un siècle et qui ont débuté avec la révolution industrielle. C'est ce qu'affirme Karl Polanyi, alors exilé aux États-Unis. La société de marché était née en Angleterre. Pourtant, ce fut sur le continent que ses faiblesses engendrèrent les complications les plus tragiques. En alertant sur la puissance des liens qui unissent économie de marché et totalitarisme, Karl Polanyi propose une réflexion nouvelle sur la place de l'individu dans la société et sur l'avenir des démocraties. Une pensée qui n'a rien perdu de sa force et dont l'actualité se renouvelle sans cesse. Alors, quel lien peut-on établir entre la société du 19e siècle et l'avènement du fascisme allemand? Quelle menace fait peser l'économie de marché sur les démocraties? Et comment l'avertissement de Polanyi résonne-t-il encore aujourd'hui? Toutes ces questions, notre invité du jour se les est posées également. Nicolas Postel, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lille. Vous êtes également membre du CLERC, un laboratoire d'économie et de sociologie, un laboratoire très polanien donc. Et vous avez publié de nombreux articles et tribunes qui interrogent la pensée politique de Karl Polanyi et la façon dont il peut nous aider à penser notre société actuelle. Bonjour et bienvenue Nicolas Postel.
Bonjour.
Alors tout de suite, on va commencer par écouter un extrait de l'émission d'hier dans laquelle Bernard Chavance, qui était notre invité, nous parlait de la façon dont Polanyi analyse l'importance problématique que prend le marché au XIXe siècle.
Le problème, c'est, selon lui, l'intégration générale des différents types de marchés qui se produit dans cette période critique du début du XIXe siècle et qui va, selon des théoriciens de l'école classique notamment, chercher à s'étendre à des domaines qui jusque-là ne relevaient pas des marchés, et en particulier le marché du travail. Et donc les lois qui ont été, pensait l'école classique, déterminées à propos des marchandises traditionnelles, devraient s'appliquer également au travail. Et la conséquence, selon Polanyi, c'est que intégrer le travail qui n'est pas une marchandise, il appelle ça une marchandise fictive ou une fausse marchandise, chercher à intégrer le travail dans le monde du marché a des conséquences extrêmement défavorables sur l'organisation de la société en général.
Alors Nicolas Postel, quelles sont ces fameuses conséquences défavorables sur l'organisation de la société qu'évoquait ici Bernard Chavance et en quoi peut-on dire qu'elles sont finalement éminemment politiques?
Polanyi, comme le rappelait d'ailleurs hier Bernard Chavance, ne s'oppose pas à l'idée de marché et comme il le rappelle également, insiste sur le fait que le capitalisme, ce que Polanyi appelle le libéralisme, nécessite de transformer en marchandise ce qui n'en est pas. Il faut insister sur cette nécessité, puisque l'idée de Polanyi, ce n'est pas de nous dire certaines choses n'étaient pas marchandes, elles deviennent, mais plus exactement, quelles sont les conditions de possibilité de ce déploiement productif que permet le capitalisme? Eh bien, il faut faire comme si. Le travail, pour Polanyi, une partie de la vie humaine, une partie majeure. La terre, c'est-à-dire finalement la biosphère, l'endroit où l'on vit. Et puis la monnaie, ce qui, on le sait, à travers la mesure et le signal, constitue un élément très important du lien social. Comment ces trois piliers sociaux, qui évidemment ne sont pas produits en vue d'être vendus, on ne produit pas des enfants en vue de les vendre plus tard, on n'a évidemment pas produit la terre, on s'en souvient. Pourquoi ces éléments doivent être marchandisés? Ils doivent être marchandisés parce que il faut alimenter de manière continue et en flux continu la fabrique du diable que vous évoquiez hier et qui est d'une certaine manière cette logique productive.
Et ça va avoir des conséquences directes sur la conception même de l'individu au sein des sociétés.
Absolument, absolument. Pour agir et pour faire preuve de raison, pour avoir raison avec Karl Polanyi, puisque c'est le titre de votre émission, eh bien, il faut évidemment que la société fonctionne avec un espace dans lequel peut s'exprimer cette raison politique et sociale. Or, et nous le savons encore aujourd'hui, lorsque nous naissons, enfants, lorsque nous sommes à l'école, et puis ensuite lorsque nous travaillons, eh bien, nous ressentons encore aujourd'hui cette injonction à faire de notre vie quelque chose d'utile, de productif, à utiliser la nature de la manière la plus efficace possible. Et c'est cette injonction à l'efficacité qui réduit, menace, éteint, pour Polanyi, notre capacité à faire société. Et au fond, à raisonner, à discuter, à faire preuve de ce qui est authentiquement humain, c'est-à-dire cette discussion et cette raison pratique, politique.
Donc il y a l'idée en fait que en fait de tissu social et de liens sociaux ne subsiste que le marché, que l'homo economicus ne peut se développer que dans le cadre du marché.
L'homo economicus, c'est une fiction. C'est une fiction qui évidemment suppose qu'on évacue en fait tout lien social. Les économistes, quand ils font l'analyse du marché, les économistes classiques et néoclassiques font l'hypothèse d'un individu asocial, donc vous avez tout à fait raison. Or, la caractéristique de ces marchandises fictives, c'est non seulement, vous l'avez rappelé hier, que l'économie s'autonomise, mais plus encore, l'économie dicte sa loi. Autrement dit, il se trouve qu'au lieu de se poser la question de savoir ce dont nous avons besoin socialement, eh bien on se retrouve à être dans une situation dans laquelle c'est l'économie qui dicte à la société ce dont l'économie a besoin. Vous voyez, il y a une sorte de révolution, d'inversion de causalité qui fait que, eh bien évidemment, si nous ne sommes pas utiles au plan économique, alors nous n'existons plus socialement. Et vous voyez bien, par exemple, dans cette phrase, qu'il y a quelque chose d'actuel dans la pensée de Polanyi.
Et on le comprend à travers ce que vous dites, c'est que finalement, il devient très compliqué pour les individus qui sont réduits à un état d'instrument du marché de rentrer en interaction les uns avec les autres. Et ça, c'est quand même le signe que le tissu social se dégrade. Pour autant, la société continue d'exister. Au début du XXe siècle, donc à la suite de ce long XIXe, la société est là, je dirais. C'est très difficile de concevoir une société qui n'existerait plus. Comment on explique ça ?
C'est un mythe, le marché autorégulateur et l'idée selon laquelle il va s'autonomiser de la société et puis finalement la dissoudre est un mythe. La société ne va pas disparaître. En revanche, la société souffre. C'est cette souffrance dont nous parle Polanyi. Elle souffre et, on va le voir, elle a des manières, d'une certaine manière, de se régénérer qui peuvent être dramatiques et pathologiques. Cette souffrance, elle se caractérise, comme vous l'avez dit, par le fait que progressivement, il n'y a plus possibilité de faire société dans nos interactions, parce que nous sommes constamment renvoyés à l'utilité, à notre utilitarisme. Polanyi utilise une expression très forte en nous disant « quelqu'un qui n'aurait pas agi seulement par amour du gain serait passé pour un fou ». Vous voyez bien, quand vous adressez à quelqu'un dans la rue en lui demandant où vous devez aller, vous ne vous adressez pas en lui à l'homo economicus, mais à quelqu'un qui va vous aider gratuitement. Bon, si ça disparaît, c'est le lien social qui disparaît.
Et pour autant, à l'époque où Polanyi observe les faits, il y a quand même des poches, ou en tout cas des tentatives de réintégrer le social dans l'économique. On ne peut pas dire qu'on est arrivé à ce stade de la société où, voilà, où tout le monde est vissé à sa table de travail et refuse de discuter avec l'autre. Et ça va même au-delà de ça, puisque les gouvernements, finalement, sont des formes de social-démocratie. À l'époque de Polanyi, on a, dans les années 30, le New Deal aux États-Unis, on a l'expérience Bloom, comme il l'appelle en 36, et tout ça, est-ce qu'on peut le voir comme des preuves que finalement le marché n'a pas triomphé et que la social-démocratie est un signal d'espoir finalement ?
Oui, non. C'est un épilogue. C'est un épilogue que pour Polanyi. C'est-à-dire que, en tout cas, pour ce qui se passe en Europe continentale, je mets de côté évidemment la situation américaine. Vous avez raison, le New Deal sera d'une certaine manière un succès et le continent américain, vous le savez, ne connaîtra pas à ce moment-là. En tout cas, l'expérience fasciste. Mais pour ce qui constitue l'Europe continentale, lui, on est à la fin d'une longue phase de ce double mouvement de résistance et il y en a, bien sûr, des feux très importants. Le Front populaire, bien sûr, mais il y a eu aussi, vous le savez, en Allemagne, des expériences de démocratie et de socialisme radical. Et donc, bien sûr qu'il y a en permanence ces contre-feux qui existent, il y a plusieurs formes de résistance à la marchandisation, des formes qui sont des formes habilitantes, qui permettent de faire société, des formes qui sont émancipatrices, mais il y a aussi des formes plus obscures. Et d'une certaine manière, avec la victoire du libéralisme dans les années 20, eh bien, la social-démocratie va s'affaiblir globalement et finalement, ces expériences tourneront court. On le sait bien sûr en Allemagne, mais on le sait aussi, même s'il y a une histoire du Front populaire, que ça n'est plus le Front populaire aux affaires en 39. Ce qui va l'emporter, c'est justement une résurgence, je dirais, sociale maladive.
Si jamais mouvement politique répondit aux besoins d'une situation objective au lieu d'être la conséquence de causes fortuites, c'est bien le fascisme. En même temps, le caractère destructeur de la solution fasciste était évident. Elle proposait une manière d'échapper à une situation institutionnelle sans issue qui était, pour l'essentiel, la même dans un grand nombre de pays. Et pourtant, essayer ce remède, c'était répandre partout une maladie mortelle. Ainsi meurent les civilisations. On peut décrire la solution fasciste à l'impasse où s'était mis le capitalisme libéral, comme une réforme de l'économie de marché réalisée au prix de l'extirpation de toutes les institutions démocratiques, à la fois dans le domaine des relations industrielles et dans le domaine politique. Le système économique qui risquait de se rompre devait ainsi reprendre vie, tandis que les populations seraient elles-mêmes soumises à une rééducation destinée à dénaturer l'individu et à le rendre incapable de fonctionner comme unité responsable du corps politique. L'apparition d'un mouvement de ce genre dans les pays industriels du globe n'aurait jamais dû être attribuée à des causes locales, à des mentalités nationales ou à des terrains historiques. Le fascisme avait aussi peu à faire avec la Grande Guerre qu'avec le traité de Versailles, avec le militarisme Juncker qu'avec le tempérament italien. À vrai dire, il n'existait aucun type de terrain qui rendît un pays invulnérable au fascisme, une fois réunies les conditions de son apparition.
Alors Nicolas Postel, ce qu'on entend dans cet extrait de La Grande Transformation lu par Françoise Le Floch, c'est que finalement la promesse d'Adolf Hitler consistait à proposer une autre solution, pour reprendre le mot de Polanyi, à la crise que connaît le marché en 1930.
Oui, superbe lecture, superbe extrait, qui dit de manière très claire ce qui d'une certaine manière n'appartient qu'à Polanyi, c'est-à-dire cette espèce de renversement de l'historiographie classique selon laquelle plus il y a de marché, plus il y a de démocratie, qu'on attribue sans doute en partie à tort à l'idée du doux commerce. Cette position de Polanyi, d'une certaine manière, renverse la table. Il le dit dans une phrase très marquante, selon moi, qui est de dire « c'est la réalité d'une société de marché qu'on perçoit dans le totalitarisme ». Cette idée, bien sûr, elle suppose ce qu'on vient de dire, mais elle suppose aussi de saisir ce qui se passe exactement. Ce qui se passe exactement, c'est que le fascisme, d'une certaine manière, remplit le vide laissé par l'effritement, l'effondrement, la mise en critique, la mise en échec des institutions qui portaient l'espoir social-démocrate. Et ce fascisme, bien sûr, est une solution, mais on pourrait dire d'ailleurs qu'il y a un jeu de mots dans solution, la solution dissout aussi. Hein. Donc la solution fasciste est bien sûr une solution totalement pathologique, dysfonctionnelle, on pourrait dire monstrueuse. Pourquoi solution ? Eh bien parce que précisément la société ne disparaît pas quand elle n'arrive plus à faire société, quand elle est anomique, aurait dit Durkheim, eh bien elle va rechercher dans des forces obscures, profondes, ce qui relie le sang, la race, l'homme providentiel. Et c'est ça qui forme le totalitarisme, parce qu'on n'arrive plus à faire démocratie. Et ce qui est frappant, bien sûr, c'est que Polanyi attribue cela, et lit comme ça le phénomène fasciste. Mais vous voyez bien que à cette période, y compris d'ailleurs en URSS, il y a des formes de totalitarisme avec lesquelles Polanyi ne sera pas beaucoup plus tendre, même si c'est pas l'objet de son analyse. C'est-à-dire qu'il y a bien un phénomène qui n'est pas local, national, mais qui nous dit quelque chose, en tout cas de tout ce qui favorise et amène à cette crise sociale terrible, à cet effondrement qu'est le fascisme.
Et pour bien vous comprendre sur ce point-là, qui est peut-être moins intuitif qu'il n'y paraît, est-ce que finalement le fascisme tel qu'il advient avec les propositions d'Adolf Hitler, est-ce que l'idée c'était de proposer une alternative entre socialisme et libéralisme, qui ne serait ni l'un ni l'autre, ou est-ce que c'était une promesse de finalement libérer la société des tensions qui naissaient justement entre marché et social-démocratie ? Quelle promesse économique, finalement, il y avait derrière l'arrivée d'Hitler au pouvoir ?
C'est une expérience singulière de devoir qualifier les projets hitlériens. Peut-être en rester à l'idée du national-socialisme, qui dit une large partie de la réponse. Ce que porte le mouvement fasciste, c'est l'idée de refaire société par, précisément, non pas la démocratie, mais la totalité, et pour Hitler, c'est bien sûr pas la totalité nationale, mais la totalité d'une race fantasmée. Et il faut éliminer les autres. Alors, ce qu'il promet, bien sûr, eh bien, ça prendra forme d'une certaine manière. Il y a effectivement nationalisation, socialisation de l'outil productif, comme ça a pu exister d'ailleurs en URSS. Et simplement, bien sûr, il y a non seulement l'horreur, je suis pas sûr. Enfin, on n'a pas forcément besoin de réinsister, en tout cas j'espère, enfin quelquefois j'en doute, mais j'espère. Et deuxième élément, en revanche, bien sûr, on n'auront pas avec le productivisme. L'hitlérisme, le national-socialisme, est au contraire une espèce de rebond vers plus encore de productivisme, non plus individualisé, mais tourné vers une puissance, la nation, la race, et fondamentalement la guerre.
Oui, c'est
la
ça,
guerre
en fait,
est inscrite dans cette idée.
C'est ça, c'est en fait désaxer, on va dire, les sujets de préoccupation.
Oui.
Hitler ne propose jamais l'idée de sortir du marché. C'est absolument pas le cas, parce que le marché, de toute façon, est tout puissant. Et vous l'avez dit, ça signe aussi...
Plus exactement, je dirais, il suspend. Si vous voyez, on peut pas sortir du marché dans un seul pays. Non, il suspend toute une série de processus marchands. En revanche, ce qu'il fait, c'est qu'il ne rompt pas avec la logique même de l'accumulation productive.
C'est ça. Voilà. Et cette vision aussi de l'individu, quelque part, dont on parlait en début d'émission.
C'est-à-dire que ça lui va bien, un individu qui n'a plus d'autonomie, comme c'est très bien dit par Polanyi, puisque précisément, ce dont a besoin le fascisme, eh bien, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des individus que l'on peut manipuler et
qui n'ont pas de lien entre eux.
Qui n'ont pas d'autre lien que celui d'exister à travers le sang, la race ou l'homme providentiel.
Alors, vous l'avez dit, l'arrivée du fascisme, en tout cas d'une rhétorique totalitariste, marque quelque part l'échec des politiques social-démocrates. Comment Polanyi, qui lui-même est socialiste, alors un socialisme de l'époque qu'on pourrait passer beaucoup de temps à définir, mais comment lui, il envisage cet échec-là ? Est-ce qu'il le ressent dans sa chair ? Est-ce qu'il pense que c'est un signal pour essayer de le reconstruire ? Comment c'est vécu de son côté ?
Je ne vais pas faire de psychanalyse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il le ressent, vous l'avez rappelé, dans sa vie personnelle. Il le ressent aussi puisque, bien sûr, comme beaucoup, il y a plusieurs années qu'il travaille à une alternative et à la possibilité d'une société qui, précisément, remettrait, au fond, l'économie à sa place. Et cette volonté de Polanyi, elle se brise, d'une certaine manière. Et ce qu'il y a de remarquable, je trouve, c'est que la grande transformation qu'il écrit après la guerre, est encore porté par cet espoir. Autrement dit, il ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il ne dit pas ça ne marche pas. Il essaye de percevoir les conditions de possibilité pour que cette forme de socialisme, cette social-démocratie, sans doute dirait-on aujourd'hui, se déploie.
France Culture.
Wenn nicht ein Wille.
Avoir raison avec Karl Polanyi.
Denn immer die anderen zu gehorchen haben.
Par Aliette Ovin.
Alors, on l'a dit, Polanyi envisage aussi les possibilités d'existence d'une forme d'économie qui prendrait davantage en compte les phénomènes sociaux et politiques. Une fois la Seconde Guerre mondiale passée, qui, on l'a dit, représente un peu le pic de l'abomination, quel regard Polanyi porte sur la formation de l'État social qui se met en place après cette Seconde Guerre mondiale ? Parce que là encore, il y a eu des tentatives et qui ont marqué l'histoire de nombreux pays européens.
Sûr.
Est-ce qu'il y a un regain d'optimisme de son côté ? Est-ce qu'il se dit, cette fois, ça va marcher ? Ou encore, cette fois-ci, c'est aussi la porte ouverte à l'avènement d'un autre totalitarisme ?
juste pour préciser, c'est effectivement l'abomination. Hein. Je pense que c'est l'abomination absolue, hein. La Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Et je vois dans les travaux d'Arendt, plus tard d'Habermas par exemple, quelque chose qui montre à quel point, dans le fascisme, la perspective de l'instrumentalisation, de la rationalité instrumentale, vous savez que c'est le cœur du travail d'Arendt, s'est maintenue. Elle se maintient dans le fascisme et d'une certaine manière, elle est mise au profit d'une politique non seulement monstrueuse mais délirante. Polanyi en prend complètement conscience et effectivement, quand il écrit après-guerre, il est plein d'optimisme. Hein. Il est optimiste et il pense que ça y est, la grande transformation, qui n'est pas celle qui s'est produite à la fin du XVIIIe siècle, mais celle qu'il pense vivre, cette grande transformation va donner ses fruits. Nous allons, après cette convulsion monstrueuse qui nous a, pour ceux qui ont survécu, appris, eh bien, nous allons reconstruire un univers dans lequel nous allons pouvoir vivre ensemble, hein, dans lequel on va pouvoir déployer de la raison pratique, parce qu'il va y avoir des institutions internationales. Et bien sûr, vous avez ici Bretton Woods, mais avant Bretton Woods, en mai 44, la conférence de Philadelphie, qui jette, première conférence de l'Organisation internationale du travail, qui dit bien son nom, puisqu'elle fait du travail un objet politique collectif qui ne doit pas être traité uniquement par le marché. Bretton Woods, en juin-juillet 44, qui traite de la question de la monnaie comme ne devant pas être laissée au jeu du marché, mais au contraire faire l'objet d'institutions et de politiques nationales. Les taux de change après Bretton Woods sont décidés par les nations entre elles. Hein. Et vous voyez aussi ce qui manque, puisque, sauf inattention de ma part, il n'y a pas eu de sommet de la Terre. Hein. En 44, il aura fallu attendre 72 et surtout 92.
Plus tardive, ouais.
Et donc, au niveau, bien sûr, écologique, hélas, ça, Polanyi ne le voit pas vraiment non plus, il faut bien le dire. Et il ne se passe pas grand-chose de bon.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'à travers la mise en place de toutes les institutions que vous venez d'évoquer, alors c'est peut-être beaucoup dire, mais il y a cette prise en compte de la pensée de Polanyi. Est-ce qu'il y a vraiment cette intention de se dire, on a vu ce que ça donnait que de réagir uniquement à la logique du marché, maintenant il faut réencastrer, maintenant on va se saisir de cet enjeu-là que soulignait Polanyi?
Je serais d'accord avec tout ce que vous avez dit jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse dire que souligner Polanyi. Polanyi n'est sans doute pas le livre de chevet, par exemple de Gaulle, pour citer un des acteurs finalement de cette resocialisation, manière aussi de montrer qu'elle n'est pas seulement portée par la gauche. Il y a un faisceau en fait d'auteurs, Marx, Keynes, Marx qui parle de la marchandisation du travail, Keynes qui est à Bretton Woods, hein, qui est celui aussi qui expliquera à quel point il faut des institutions de la monnaie. La caractéristique de Polanyi, c'est que c'est un auteur qui est le seul à avoir ce syncrétisme et à montrer que derrière ces différentes questions, la question du travail pour Marx, la question de la monnaie pour Keynes, la question qui prendra un petit peu forme progressivement de la nature, qui existe déjà un peu chez Ricardo, eh bien, il y a un point commun, c'est cette nécessité de considérer comme marchandise ce qui n'en est pas, et c'est là l'espace institutionnel, puisque du coup, soit on sort du capitalisme immédiatement, bon, ces conditions sont pas, c'est pas ce qu'il décrit en 44, soit d'une certaine manière, on donne un statut à ces marchandises fictives qui font qu'on n'oublie pas que le travail, c'est pas vraiment un travail. Et donc, il y a une manière de démarchandisation qui se met en place pour la monnaie et pour le travail. Et bien sûr, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de marché du travail, ça veut dire que prendre un travailleur, ça n'est pas comme acheter une télé. Il y a des règles, il y a des conditions qui vont donner le contrat dur indéterminé, il y a la protection sociale, il y a ce qui donnera l'état social qui a permis à nos sociétés, finalement, de se reconstruire, effectivement, de se maintenir jusque dans les années 70.
Et est-ce qu'on peut dire aussi que toute l'énergie que Polanyi met dans ses recherches plus anthropologiques à observer les sociétés archaïques, ce dont on va parler demain, est-ce que cette énergie-là, il la met aussi parce que les formes de commerce, les formes d'échange qu'il observe dans ces sociétés-là peuvent servir de piste pour penser une économie moins dépendante du marché?
Oui, c'est bien sûr un des aspects essentiels des travaux de Polanyi que de relativiser, même de montrer l'exceptionnalité de notre système, mettant la société à la remorque de l'économie. Tout son travail consiste à montrer que l'économie est en général insérée dans des structures sociales qui lui donnent sa forme, redistribution, symétrie et puis don contre don, y compris économie domestique, et puis y compris d'ailleurs le marché. Polanyi pense que le marché est une forme qui a toujours existé, simplement c'est pas forcément un marché fondé sur la concurrence. C'est plutôt un marché fondé sur la diversité et c'est un marché fondé sur l'échange dans lequel les individus, on pourrait parler, penser à la règle du juste prix, s'accordent et en moment même où ils échangent, font preuve de raison pratique. On n'est pas dans des marchés de type marché financier que nous connaissons aujourd'hui, ou bien vous ne pouvez pas dire lorsque vous êtes sur Amazon et que vous commandez votre dernier iPhone pour vous aliéner vous-même, et bien que vous êtes dans une situation de relation sociale. Et pourtant, voilà, donc... contre cette forme de marché asocial pour des formes de commerce qui créent du lien social.
Alors, on l'a dit en introduction et vous avez vous-même insisté sur cette dimension. La pensée de Karl Polanyi est encore très actuelle et elle peut nous servir aujourd'hui. De quelle manière, Nicolas Postel ? Comment on peut s'en saisir de façon concrète aujourd'hui et en quoi il faut continuer à écouter Karl Polanyi ?
Au-delà du plaisir intellectuel et de lecture de Polanyi, il y a d'autres plaisirs de lecture, cette actualité est malheureuse, puisque ça signifie que nous sommes aujourd'hui, et depuis déjà au moins une vingtaine d'années, rendus à une situation... proche de celle des années 20. Alors, on peut toujours dire que l'histoire se répète pas, mais ce qui s'est répété, ce qui est revenu comme un boomerang, ce que n'a pas vu Polanyi, qui a négligé l'efficacité de son collègue Friedrich Hayek, qui s'employait aussi à travers la société du Mont Pèlerin à organiser le monde d'après, sous la forme du néolibéralisme. Et finalement, c'est cette nouvelle forme de libéralisme, d'une certaine manière plus insidieuse, plus profonde aussi dans son ancrage, qui a pris le pouvoir à partir de la destruction du système monétaire international, et puis progressivement la mise en critique de tous les piliers de l'État social. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour voir une convulsion sociale cherchant à défendre des droits pour les travailleurs lorsqu'ils arrivent proches de l'âge de la retraite, et qui montre que cette déconstruction est en cours. Et bien sûr que ces mouvements sociaux qui existent, qui sont vivaces, échouent en partie, on l'a vu, et ce qui n'échoue pas, eh bien, c'est la résurgence de mouvements de type fasciste. Bien sûr, Trump aux États-Unis nous sert habilement...
C'est ça, vous avez publié une tribune dans Le Monde qui faisait un lien direct entre la pensée de Karl Polanyi et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, oui, comme l'expression d'une dislocation finalement du lien social aussi.
Ouais. Et une plus récente qui indiquait que l'échec d'une certaine manière du mouvement social contre les retraites ne pouvait en aucun cas être attribué comme un succès pour ceux qui sont attachés à la démocratie, puisqu'elle fait le lit de ce qui existe aujourd'hui aux États-Unis, Trump, en Italie, Meloni, ce qui existe dans les pays du Nord, pourtant piliers sociaux-démocrates aujourd'hui principalement portés, pour partie en tout cas dans les partis de gouvernement, ceux qui soutiennent les gouvernements, par des néo-nazis et des fascistes. Et bien sûr, il est évident que la France est au-devant de ce type de convulsion, si on ne réagit pas très vite, en remettant des règles et des institutions là où elles doivent être, dans notre vie, dans notre biosphère et dans la manière de compter.
Et alors Nicolas Postel, ce sera sans doute notre question de la fin pour conclure cette discussion. Est-ce que selon vous, on a raison de vouloir avoir raison avec Karl Polanyi ?
Je trouve que c'est formidable d'avoir utilisé cette idée d'avoir raison avec Karl Polanyi, parce que précisément, ce que nous apprend Polanyi, c'est que l'existence d'un espace pour la raison pratique, dans un univers dominé, non pas par le marché, mais par un marché autorégulateur, et en particulier dans cette période par la finance de marché, eh bien menace cette capacité à faire société. On a raison de se battre pour continuer à pouvoir raisonner.
Merci beaucoup Nicolas Postel d'être venu en studio aujourd'hui pour nous parler de l'aspect politique de la pensée de Karl Polanyi. On retrouve toutes les références de vos publications sur la page de l'émission, émission que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France ainsi que toutes les autres. Merci également à Françoise Le Floch à la réalisation et à la lecture, à Ruben Carmazine à la technique et à Diane Devancet à la préparation. Demain, nous partons avec le sociologue Alain Caillé et l'historien Alain Guéry vers les cités archaïques de Babylone à la Grèce antique, à la recherche d'économie au-delà du marché.